Pierre et Michel, votre mission, si vous l'acceptez, enregistrer le chant du levain. Pour ce faire, rendez-vous à Genève, à Berne et à Savigny. Et surtout, ne nous décevez pas. Prêt, à vos marques. 3, 2, 1, partez. Allez, hop hop.
C'est comme ça que tout a commencé. Une voix, une demande, un appel. Une injonction me poussant à me replonger dans mon passé boulanger. Avec l'ami Pierrot, aller remettre mon nez dans les fournils et voir, 30 ans après, comment ce métier avait évolué. Durant ma formation dans les années 80, on ne m'a jamais parlé du levain. Un processus miraculeux et plusieurs fois millénaire. Le simple mélange d'eau et de farine dans lequel se développe naturellement, par fermentation, une multitude de bactéries permettant de transformer ce qui n'était jusqu'alors qu'une plate galette en un pain alvéolé, levé et savoureux. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le monde ô combien vivant du levain. Un univers où la matière est maîtresse du temps. Un puits de saveurs dont le chant est annonciateur de délices. Je retourne à l'essentiel, de l'eau, de la farine, du sel. Je vous emmène en trois temps sur le chemin de la mie, du champ de blé au champ du levain. Se laissera-t-il apprivoiser? Pourrons-nous vous le faire écouter?
Pierre? Pierrot?
Ouais.
On y va?
Yes.
Première étape Genève, rue du Simplon 7.
Et on doit s'attendre à quoi? On doit aller chez qui?
Un laboratoire de 60 mètres carrés, chez Jérôme Sogy, en plein cœur du quartier des Eaux Vives. Hop.
Bon, je sais pas exactement ce que ça veut dire une vocation. Mais c'était une idée, une volonté que j'avais très jeune. À la fin de l'école obligatoire, pour moi, c'était assez clair dans ma tête, je voulais faire boulanger.
Ah, donc c'était à l'adolescence?
Ouais, quand j'avais 14-15 ans. J'étais un des rares dans ma classe qui savait réellement ce qu'il voulait faire dans sa vie professionnelle. Donc à la sortie du cycle, j'ai fait des stages pour faire un premier pas dans ce milieu de la boulangerie.
Mais tu sais pourquoi la boulangerie? Pourquoi tout d'un coup c'est devenu une évidence?
Pour moi, c'est lié à la relation à ma mère, je pense, et à ce qu'on a pu faire ensemble. Tous ces petits moments sympas ensemble, à faire des tresses, à faire des cakes, à faire du pain. Elle dira qu'elle a pas vécu ça comme ça, qu'elle semblait pas, qu'elle avait vraiment fait beaucoup de choses pour que je tombe là-dedans. Mais je pense que c'est un moment...
Après, c'est des influences.
C'est un moment où t'as ta mère pour toi.
Ouais.
Et puis, c'est un petit truc... je sais pas, c'est des moments de plaisir. Premier moment de plaisir quand t'es jeune, quoi.
Bon, c'est pas tout ça, hein. Au pétrin.
On va pas souffler tout de suite, on va lui donner
Regardez comment tu faisais pour ramasser la farine.
Voilà. On va lui donner un petit temps de repos.
Ouais.
On va même basculer toute la pâte ici.
Okay.
Comme ça, on récupère tout ce qui est sec.
Mm-hmm.
Puis après, une dizaine, 5 à 10 minutes de repos, puis on viendra souffler. Volonté d'avoir une pâte lisse en surface pour ça. Okay. Dessous, ça peut être un petit peu mal traité. Mais de manière générale, l'idéal, c'est d'avoir une pâte qui va pas déchirer. Que ce soit là où il y a les pouces ou dessous parce qu'on tire trop. Si la pâte déchire, elle va mettre plus de temps à se reconstituer que quand elle est coupée proprement, justement, par un coup de pâte. À un moment donné, j'étais fiduciaire, donc en fait, j'aidais des entrepreneurs à créer des boîtes. Puis un des derniers clients que j'ai eu avant de revenir boulanger, c'était une chocolaterie. Et le bureau pour l'admin, en fait, il donnait sur le labo de travail. Et puis en fait, je voyais les mecs bosser la pâte, les crèmes, les ganaches et tout ça, puis ça me donnait trop envie. Et puis après 6 mois, ma mission était finie. Et eux m'ont demandé si je voulais pas garder tout le mandat de fiduciaire. Mais moi, ça sous-entendait lâcher d'autres clients pour bosser à 60% pour eux. Donc m'attacher vraiment à cette chocolaterie. Puis je leur ai dit que j'étais OK de faire ce choix-là, mais alors qu'ils me prenaient comme stagiaire dans leur labo une semaine par mois. Je faisais la compta. Les RH, la TVA, la fiscalité, enfin tout ça, très bien. Mais derrière, vous me faites un peu faire du pain, vous me faites un peu faire du chocolat. Donc on a fonctionné comme ça pendant 6 mois. Et en fait, après 6 mois, le constat, il était sans équivoque. Je préférais largement être dans le labo, travailler la pâte, être debout, utiliser mon corps, être vraiment dans le moment présent, etc., que devant mon tableau Excel, à résoudre des problèmes administratifs, à pas avoir la valeur ajoutée réellement que j'amenais à cette chocolaterie. Et en fait, c'est là où vraiment je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai fini avec mon ancienne activité professionnelle. Il faut que je tourne la page et que j'aille enfin vers ce truc de boulangerie. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 35 ans, je suis un peu moins naïf, j'ai un peu plus d'expérience et surtout je vois comment on pourrait faire fonctionner une boulangerie comme je souhaiterais qu'elle tourne et pas comme elle doit tourner comme toutes les autres qui existent sur la place. Donc ça, ça a été le moment décisif, c'était ces 6 mois où ouais, le constat il était assez clair.
Jérôme, sérieusement, jamais de levure, tout au levain naturel.
On n'utilise jamais de levure, même dans les pains de mie, dans les panettones qu'on fait à Noël, les brioches aux fruits d'été qu'on a fait la semaine passée, on travaille toujours au levain. On a 2 souches qu'on entretient, plus une 3e dans la semaine qu'on construit. Donc on a une souche de levain de seigle que j'ai créé le jour de mes 35 ans. Donc là, on s'approche gentiment des 5 ans. Et puis la souche de levain de panettone, on l'a héritée de l'école dans laquelle j'ai fait ma formation il y a 4 ans maintenant. Et qui vient elle-même d'un panettone italien. Donc c'est une souche qui a vraiment plusieurs décennies dans les dents, celle-ci.
Okay.
Puis notre souche de levain de sarrasin qu'on utilise pour les pains sans gluten, on la reconstruit à partir du levain de seigle chaque week-end. Le plus important pour moi, c'était déjà de sortir du carcan de l'emballage. Donc nous, on n'emballe rien du tout. On a 0 emballage, 0 papier, 0 plastique ici.
Okay.
Donc ça, c'est déjà bien différent de ce qui existe dans la plupart des boulangeries. On n'a pas de perte. Donc, tous les pains qu'on produit, ils ont un destinataire, donc ils vont tous être mangés. Bon, après, on ne peut pas gérer ce que les gens font chez eux, évidemment.
Aujourd'hui, c'est à Ingrid que Jérôme prodigue ses conseils techniques.
Tu peux continuer en fait l'escargot jusqu'au bout. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si tu prends ton bâton qui est comme ça, que tu prends au milieu et que tu viens tirer,
ça va descendre, ça fait
une grosse tension au milieu. Alors que si tu viens juste faire prendre un petit peu, tu enroules gentiment, en fait, c'est comme quand tu enroules avec les graines, on ne met pas de tension dans la pâte.
Ouais.
C'est juste l'élasticité de la pâte, l'extensivité de la pâte qui va guider ce que tu vas pouvoir emballer.
Ouais.
Puis en fait, toi, tu peux la prendre comme ça. Ce qui fait que dedans, tu as encore un deuxième escargot sur un autre.
D'accord.
Et les graines, elles sont bien réparties partout.
Okay.
Alors que si tu fais là le truc en crabe, on va avoir, quand on va faire le tour tout à l'heure, on aura peut-être 2 morceaux de pâte qui vont revenir, ce qui fait que ton rectangle, il sera peut-être un peu biscornu. Et ça.
Ce modèle économique, il tient la route?
Ça paraît idiot, mais déjà, rien que faire un lieu de production de pain et de vivre qu'avec du pain, c'est déjà extraordinaire. Du coup, déjà, de faire une boulangerie au centre-ville de Genève qui est rentable uniquement avec la production de pain, c'était déjà un enjeu qui n'était pas évident au début. Donc, d'être allé dans cette direction, il fallait trouver un modèle qui puisse fonctionner. Donc déjà pas de boutique, parce que les boutiques,
Loyer,
ça coûte beaucoup trop cher. C'est d'ailleurs pour moi une des raisons pour lesquelles il y a des activités qu'on ne voit plus au centre-ville de Genève. Hein.
Mm-hmm.
Parce que certaines rues, les loyers sont tellement chers qu'il n'est plus possible de gagner sa vie en vendant une bière à un prix correct ou du pain. Quoi. C'est plus facile de gagner sa vie en vendant des bijoux. Quoi. Donc tous les grands pains là, vous voyez avant, plus les batailles qui étaient là, les pains de mie qui étaient là, et des pains en format cube, sans gluten. Tout ça, ça part avec Noam, que vous avez vu, qui est arrivé avant. On va remplir un premier vélo, et il va y avoir deux tournées, une tournée dans les eaux vives, et une tournée dans le reste du centre-ville de Genève, pour les restaurants, épiceries, etc. Nous, là, on va sortir d'autres pains aux graines, graines de colza, graines de tournesol, donc c'est la pâte qu'on est en train de préparer là. On va y inclure des graines après. Et ça, c'est tous les pains qu'on va faire, ils sont tous identiques, c'est tous les pains qu'on envoie chez les privés directement, dans les boîtes à lait. Les gens, ils ont un sac en lin, ils reçoivent le coursier, ils mettent directement dans la boîte à lait, dans le sac en lin. Et puis ça, c'est les recettes qui changent chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment le pain pour les privés, il y en a un par semaine.
Parmi tous les produits de boulangerie, un petit préféré ?
Alors j'ai vraiment, je vais te décevoir, mais j'ai pas de produit préféré. Et d'ailleurs, ça fera pas sens pour moi d'aimer un produit par-dessus les autres, parce que j'aurais tendance à vouloir le refaire. Et je me dégagerais du truc qui me semble important pour moi, c'est-à-dire de promouvoir la diversité dans le choix des céréales, dans le choix des farines, dans le choix des recettes. Parce que comme on le sait, d'un point de vue alimentaire, on doit de toute façon diversifier notre alimentation, c'est valable pour le pain aussi.
La boulangerie dans 10 ans, c'est comment ?
Alors, moi je pense que ça va suivre exactement ce qui s'est passé pour la brasserie. C'est-à-dire qu'on a touché le fond au niveau qualitatif, standardisation. On est arrivé à un summum de la boulangerie industrielle fin des années 90, début 2000. Et ça reste un métier de passionné avec des gens qui ont plein de bonnes idées, plein de passions. Beaucoup de gens font du pain chez eux. On vit une période aussi où les gens se posent beaucoup de questions quant à leur avenir professionnel, ce qui fait sens pour eux. Enfin, ils essaient de vraiment trouver un moyen de passer des journées dans un élément qui leur convient. Et la boulangerie, c'est vraiment un très très beau métier sur ces aspects-là. C'est pas facile, on l'a dit avant, mais c'est vraiment un très très beau métier qui attire plein de gens. Mmh. Et ce qui s'est passé dans la brasserie, c'est qu'en 30 ans, en fait, on est passé de 3-4 grandes brasseries industrielles en Suisse à environ 1200 microbrasseries aujourd'hui en Suisse. Alors elles sont peut-être pas toutes rentables, elles sont peut-être pas toutes super, etc. Mais ça fait exploser la diversité des bières, des goûts, des arômes, des possibilités de dégustation. Et elles sont toutes le fait de gens qui sont passionnés. Et je pense que pour la boulangerie, ça va être pareil. Dans 20 ans, on se revoit, il va y avoir plein de micro-boulangeries partout qui vont faire plein de pains très différents avec des traditions très différentes. Et en fait, de nouveau, il va y avoir une explosion de la diversité des pains produits.
Merci pour ton accueil chaleureux et pour ta passion contagieuse. Bon vent.
Pierre et Michel, êtes-vous bien certain de n'avoir rien oublié ? Le chant du levain, bon sang.
Ok. On essayera de faire mieux la prochaine fois. Promis. Prenez soin de vous. Parle le levain.
Radio Bascule.